15 Français ont reçu le prix Nobel de littérature depuis sa création.
Et on est allé mettre le maître.
Il va essayer de transformer sa propre réalisation.
Essai !
Magnifique coup de pied par-dessus la défense.
Alors je vous rappelle pour la énième fois qu'il ne s'agit pas d'une émission à caractère sportif et rugbystique, mais une émission consacrée aux essais à caractère politique, scientifique, philosophique, sociologique, ce que vous voulez, mais pas de rugby. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un petit livre d'un auteur qui s'appelle Umberto Eco, qui est un auteur donc d'origine italienne, qui est un homme né en 1932, c'est-à-dire au moment où le fascisme est déjà installé en Italie, et qui est très connu dans deux spécialités. La première, sa spécialité, je dirais, universitaire et scientifique, qui en fait de lui un des grands sémiologues de la seconde moitié du XXe siècle, et surtout aussi pour les romans qu'il a commis, et notamment Le Nom de la Rose, bien connu, puisqu'il a donné lieu à un film assez exceptionnel, avec Sean Connery notamment, qui est paru donc en 1980. Il est l'auteur d'autres romans, hein, comme Le Pendu de Foucault, Le Cimetière de Prague, et de nombreux essais, comme notamment 5 questions de morale, dont est tiré le texte dont je veux vous parler aujourd'hui, qui s'appelle « Reconnaître le fascisme ». Alors, ce livre a un intérêt, c'est qu'il repart des racines, je dirais, idéologiques et historiques que Umberto Eco a connues quand il était enfant, c'est-à-dire il a été à l'école à la période du fascisme où il y avait un contrôle politique de la manière dont on devait instruire les enfants italiens à l'époque, etc., avec l'influence du nazisme qui devait, disons, qui était une espèce de concurrence sur la manière de mener le monde. Et Umberto Eco nous dit à propos de ce texte, je crois possible d'établir une liste de caractéristiques typiques de ce que j'appelle l'ur-fascisme, ur ayant une racine de la fameuse ville mésopotamienne, c'est-à-dire la naissance hein, des choses et de la civilisation, l'ur-fascisme, c'est-à-dire le fascisme primitif et éternel. L'ur-fascisme est toujours autour de nous, parfois en civil, dit-il. Ce serait tellement plus confortable si quelqu'un s'avançait sur la scène du monde pour dire « je veux rouvrir à Auschwitz ». Hélas, la vie n'est pas aussi simple et l'ur-fascisme est susceptible de revenir sous les apparences les plus innocentes. Notre devoir est de le démasquer, de montrer du doigt chacune de ses formes, chaque jour et dans chaque partie du monde. Donc l'auteur mêle ici des souvenirs personnels de sa jeunesse sous le fascisme et analyse structurelle de 14 archétypes du fascisme primitif et éternel. Je vous rappelle simplement, parce que le fascisme qui s'est développé dans cette première partie du XXe siècle, ainsi que le nazisme à peu près, leur développement date à peu près de la même époque. Et je vous rappelle que Brecht disait, après la Seconde Guerre mondiale, le ventre est encore fécond, d'où la bête immonde a surgi. Je me permets de terminer, même si je suis un petit peu long aujourd'hui, par le poème d'un poète italien que cite Umberto Eco pour terminer son texte, que je trouve très beau. Il dit « Sur le parapet du pont, les têtes des pendus dans l'eau de la source, la bave des pendus sur le pavé du marché, les ongles des fusillés sur l'herbe séchée du pré, les dents des fusillés, mordre l'air, mordre les pierres, notre chair n'est plus celle d'homme, mordre l'air, mordre les pierres, notre cœur n'est plus celui d'homme. » Mais nous avons lu dans les yeux des morts et sur terre la liberté, nous la ferons, mais ils l'ont serrée des poings des morts, la justice que nous ferons.